Bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor, chargée des CSE chez Jury Travail et je suis ravie de vous accueillir pour cette webconférence dédiée aux délégués syndicaux et aux élus de CSE sur le délit d'entrave. Donc, nous allons passer 45 minutes autour de ce thème et je serai accompagnée par l'un de nos juristes, Kevin Lemoyec. Merci beaucoup, Kevin, et bonjour à toi.
Bonjour à tous, bonjour Myriam et merci aussi à toi d'être ici pour présenter cette web.
Alors, quelques petits mots sur Jury Travail pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Jury Travail fête ce mois-ci son 20e anniversaire. Ça fait 20 ans qu'on est le leader de l'information juridique en ligne. Jury Travail, c'est une équipe de 50 juristes qui sont tous diplômés Bac plus 5 et qui décryptent pour vous l'actualité juridique. Ils rédigent des actualités très claires et également des dossiers ou des modèles de lettres ou de contrats pour vous aider dans le quotidien de vos mandats. Les juristes basés à La Rochelle répondent également à vos questions par téléphone, aux questions de nos abonnés. Et c'est 3 000 entreprises qui nous font confiance et utilisent au quotidien nos services. Donc, nos accompagnements juridiques pour approfondir un petit peu cette offre. En fait, ce sont 2 abonnements qui vous donnent accès à notre base documentaire juridique, qui est très complète, et qui vous donne accès également à notre équipe de juristes qui répondent à vos questions au téléphone. Au niveau de l'organisation de cette webconférence, on est là pour en gros 45 minutes ensemble. Donc, avec Kevin, nous allons évoquer donc beaucoup de thématiques sur le délit d'entrave et nous garderons un petit temps à la fin pour répondre à vos questions que vous pouvez poser. Donc, comme Mylène vous l'a suggéré, vous avez un petit bouton en bas à droite où il y a écrit questions. Essayez de privilégier cet onglet-là pour poser vos questions pour qu'on puisse y répondre au cours de, enfin, à la fin de la webconférence. Pardon. Alors, comme vous le savez tous, le dialogue social en entreprise est favorisé et très encadré par le droit du travail. Cela implique donc des obligations de dialogue social à nos employeurs. Et en cas de non-respect, le délit d'entrave est là pour sanctionner donc les employeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations. Il y a de nombreux exemples de délits d'entrave que nous développerons au cours de la webconférence et ce délit est très lourdement sanctionné. Donc, au niveau des différentes parties et des différentes thématiques que nous aborderons ensemble, donc nous allons voir d'abord ce qu'est le délit d'entrave et qui peut commettre un délit d'entrave. Ensuite, nous développerons donc les différents types de délits d'entrave, le délit d'entrave à la constitution de l'instance, au fonctionnement de l'instance, le délit d'entrave portant atteinte à un représentant du personnel ou à l'exercice du droit syndical. Et nous terminerons justement sur la procédure pour faire sanctionner le délit d'entrave et les sanctions qui s'appliquent dans ce cas-là. Alors, commençons donc par la définition du délit d'entrave. Kevin, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le délit d'entrave?
Bien sûr, le délit d'entrave, c'est une infraction pénale intentionnelle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment la volonté de la commettre. Il n'y a pas d'infraction involontaire dans ce type de cas. Le délit d'entrave, la liste des délits d'entrave possibles et imaginables est infinie. Mais on va essentiellement le retrouver dès lors qu'on a une atteinte à la constitution d'une instance représentative du personnel, à un exercice régulier des fonctions d'une institution représentative du personnel, à un exercice du droit syndical dans l'entreprise ou une atteinte au statut protecteur des salariés protégés. Ça va être essentiellement les cas où on va pouvoir constater ce délit d'entrave. Mais avant de pouvoir vraiment se dire est-ce qu'on est dans un délit d'entrave ou pas, il faut revenir bien plus en arrière sur une règle de droit pénal et de procédure pénale qui est fondamentale, c'est est-ce qu'une infraction est caractérisée? Il faut toujours savoir que pour qu'une infraction soit caractérisée, il faut qu'elle réunisse trois éléments. Alors c'est très théorique, mais c'est essentiel en pratique. C'est ce qu'on appelle l'élément légal, ça veut dire qu'il faut qu'un texte sanctionne le comportement. On ne peut pas avoir de sanction sans texte. Attention au niveau du délit d'entrave, la jurisprudence a tendance à interpréter de façon très large les textes qui peuvent sanctionner le délit d'entrave. Donc c'est pour ça qu'on peut en avoir beaucoup. On a également un élément matériel, il faut qu'il y ait un comportement interdit qui soit fait. Et également, il faut un élément intentionnel. Pour pouvoir être passible d'une infraction pénale, il faut l'intention de la commettre. Même quand on est sur une infraction involontaire, il faut forcément une intention de la commettre. Un homicide involontaire, pas forcément l'intention de tuer une personne, mais il y a eu une intention de ne pas avoir respecté certaines règles de sécurité ou de prudence, par exemple. Donc l'élément intentionnel est toujours important dans la qualification d'une intention pénale et doit être prouvé. Attention par contre, petite spécificité pour le délit d'entrave sur cet élément intentionnel, il y a une présomption d'éléments intentionnels. Ça veut dire que cet élément n'a pas forcément besoin d'être prouvé en soi, mais la constatation de cet élément implique une intention coupable de la personne qui l'a commis. Donc là, on a une petite facilité, on va dire, dégagée par la jurisprudence pour prouver cet élément et donc prouver la réalité de l'infraction. Donc, trois éléments à réunir, comme toute infraction pénale, et très important, un texte qui se rattache pour pouvoir avoir cette infraction.
Très bien, merci beaucoup Kevin. Et donc maintenant, voyons qui peut commettre un délit d'entrave.
Alors, le délit d'entrave, qui peut le commettre? Là aussi, la liste est infinie. Le plus souvent, ça va être directement la responsabilité de l'entreprise. On va attaquer l'entreprise personne morale. Il faut garder à l'esprit qu'une entreprise, une société a la personnalité morale, c'est une personne comme vous et moi. Donc on attaque en règle générale la personne morale. Mais on peut également, et très souvent, attaquer directement le dirigeant. Ce dirigeant, peu importe que ce soit un dirigeant de droit ou de fait, qui peut être, en règle générale, le représentant légal de l'entreprise, peut être condamné pour ce type de délit d'entrave et ça va souvent être lui qui va être visé lorsqu'on cherche à atteindre une personne physique. On va surtout le voir dans le cas des petites sociétés, hein, très souvent. Il peut y avoir tout un tas d'autres personnes, hein, qui peuvent être condamnées pour délit d'entrave et parfois ça peut être assez étonnant. Ça va être un repreneur de l'entreprise. On a des exemples de jurisprudence, par exemple, un repreneur d'une entreprise qui n'a pas voulu conserver un salarié protégé et qui l'a congédié de façon irrégulière, il a été déclaré coupable de délit d'entrave. On peut avoir un salarié lambda dans un arrêt 86 qui s'était opposé à la réintégration d'un délégué syndical, a été condamné pour délit d'entrave. Même un membre du CSE peut être condamné pour délit d'entrave. Par exemple, un arrêt de 4 dans un arrêt de 1988, un membre du CSE qui avait engagé une dépense qui n'avait pas été approuvé par la majorité des membres, a été condamné pour délit d'entrave. On peut avoir un directeur des ressources humaines qui est chargé de la présidence du CSE, donc qui va avoir une délégation de pouvoir, qui va, dans une affaire de 2003, refuser de consulter sans motif légitime le CSE. Donc le DRH a été condamné pour délit d'entrave. Si vous avez des bases en droit et que vous vous dites, mais je croyais que le salarié, parce que le DRH est salarié, disposait d'une immunité civile lorsqu'il travaillait. C'est vrai, il dispose d'une immunité civile, mais là, on n'est pas en civil, on est en pénal. Donc le DRH peut être condamné en pénal pour délit d'entrave. Donc tout un tas de personnes peuvent commettre un délit d'entrave dès lors qu'on a une atteinte à un des textes et qu'on a les trois éléments qui sont constitués. Donc pas obligatoirement besoin d'être le dirigeant. Ça peut être tout un tas de personnes, généralement il y a un lien avec l'entreprise, mais pas seulement.
Merci beaucoup, Kevin. Alors, nous allons donc développer maintenant les différents types de délits d'entrave qui existent. Et le délit d'entrave peut être commis avant même la constitution de l'instance et avant même des élections dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Bien sûr. Votre délit d'entrave, il peut arriver. On va parler d'un délit d'entrave au bon fonctionnement du CSE là. Donc, ce délit d'entrave peut arriver avant même la constitution du CSE. De façon très simple, c'est lorsque l'employeur ne prend pas l'initiative d'organiser ses élections professionnelles. Pour rappel, ce doit être constitué, ce doit être enclenché dès lors que l'entreprise a atteint les 11 salariés, les 11 équivalents temps plein pendant 12 mois consécutifs. Donc, l'employeur qui ne n'organise pas ses élections professionnelles alors que ces 12 mois sont passés commet un délit d'entrave. Ça va être également le cas lorsque, par exemple, quand il y a une carence et que 4 ans plus tard, l'employeur ne réorganise pas les élections professionnelles. On va aussi l'avoir dès lors qu'il va faire obstacle à la désignation des représentants du personnel, c'est-à-dire qu'il va avoir une attitude récalcitrante pour essayer d'aboutir ou retarder ou faire échouer le processus électoral. On va également avoir le cas lorsqu'on va avoir un employeur, pas d'employeur, mais ça peut être quelqu'un d'autre, hein, un employeur, un DRH, etc., etc. Qui va chercher à fausser les résultats de l'élection. Par exemple, on a eu des affaires où des participants à l'élection, en réalité, n'étaient même pas salariés de l'entreprise. Et donc, le but était de fausser les résultats. Et là, il y a eu deux délits d'entrave.
Effectivement. Alors la deuxième grande catégorie de délits d'entrave, c'est celle au fonctionnement de l'instance. Et là encore, les exemples ne manquent pas, n'est-ce pas, Kevin?
Exactement, la liste ici aussi est illimitée. Alors, on va voir des cas les plus fréquents qu'on va constater au niveau du fonctionnement de l'instance. Ce sont des exemples jurisprudentiels. Donc, comme je vous l'ai dit, la non-mise en place du CSE, qui est l'exemple le plus évident. Mais on va également avoir des absences de mise en place de consultations obligatoires, qu'on soit sur des consultations récurrentes, donc toutes les consultations qui doivent obligatoirement être faites de façon habituelle. Mais également des consultations obligatoires mais non récurrentes, c'est-à-dire lorsque vous avez, par exemple, une modification importante des conditions de travail. On va également avoir le défaut de la réunion des membres du CSE. Donc, quand on prévoit une réunion tous les mois, tous les 2 mois, il faut faire 6 ou 12 réunions par an si on ne les fait pas. Là, il y a un délit d'entrave. Lorsqu'il y a une demande de réunion extraordinaire du CSE et que l'employeur la refuse, là aussi, on a un délit d'entrave. Réunion extraordinaire qui peut être demandée à la majorité des membres, par exemple. On peut aussi avoir, et ça c'est peut-être un délit d'entrave qui ne peut pas forcément sembler très grave, mais qui est très fréquent, c'est lorsque l'employeur ne convoque pas les membres suppléants à la réunion du CSE. Les membres suppléants doivent absolument être convoqués parce qu'il suffit qu'un de vos titulaires ne soit pas présent à la réunion, il faut faire venir le suppléant. Donc, s'il n'a pas été convoqué régulièrement, là aussi, vous avez un délit d'entrave. Et on va aussi avoir quelque chose d'assez habituel et qu'on verra tout à l'heure, un certain nombre de problématiques liées au procès-verbal. Donc, on va d'ailleurs voir tout de suite.
Oui, tout à fait. Donc, au niveau des délits d'entrave, les plus fréquents concernant l'instance, il y a effectivement un délit d'entrave où l'employeur demande à participer activement ou rédige totalement le PV du CSE. Il y a également aussi, certains CSE m'ont déjà posé la question, des employeurs qui demandent à, enfin, sous prétexte de vouloir aider les élus, qui demandent à se servir carrément des budgets du CSE et en disposer, en mettant à disposition la comptable de l'entreprise, par exemple. C'est bien totalement illégal, Kevin.
Totalement.
Et c'est bien du délit d'entrave. Sur le, tu peux détailler un petit peu plus sur le PV du
Le
CSE?
PV, bien sûr. Le procès-verbal du CSE, donc qui va lister ce qui s'est dit lors de la réunion, doit être rédigé par le secrétaire. Et j'insiste bien, par le secrétaire et personne d'autre. Même si, pour X ou Y raison, ça peut arriver dans les CSE qu'on fasse appel à des sociétés extérieures pour le rédiger, parce que le secrétaire n'a pas forcément le temps, ça peut être un gain de temps, ce qui peut parfois être intéressant. C'est le secrétaire qui est seul responsable de sa relecture et de son contrôle. Et l'employeur ne peut en aucun cas se substituer au secrétaire en étant co-rédacteur de ce procès-verbal ou en le rédigeant seul, ou même, ça c'est une affaire qui peut être intéressante, en 2003, en faisant désigner par un huissier, donc on va appeler commissaire de justice, l'employeur avait fait rédiger le procès-verbal par un huissier parce qu'il y avait une carence du secrétaire. Là non plus, c'est strictement interdit, ça relève uniquement du secrétaire, la rédaction de ce procès-verbal. En aucun cas, l'employeur ne peut faire rédiger ce procès-verbal par quiconque, même une employée de l'entreprise, et il ne peut pas co-rédiger ce procès-verbal. Si tel est le cas, là aussi, on a un délit d'entrave.
Très bien. Et alors, un cas qui s'est posé auprès de moi pas plus tard qu'hier, c'est le cas d'un CSE qui se voit imposer le cabinet d'accompagnement juridique, qui doit être le même cabinet d'avocat que l'entreprise. Là aussi, délit d'entrave?
Ça peut être un délit d'entrave, d'autant plus que ce serait très problématique en termes de déontologie pour l'avocat dans ce cas-là.
En effet. Alors, vous êtes nombreux à poser des questions dans le chat. S'il vous plaît, essayez vraiment de les poser dans l'onglet questions, qu'on puisse les retrouver plus rapidement en fin de webconférence. Merci beaucoup.
Le procès-verbal, pour répondre très rapidement à Stéphanie, c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Mais même de moins de 50 salariés, il y a forcément un bureau.
On le fait généralement, mais c'est pas, ça fait plus partie des dispositions obligatoires.
D'accord. Alors, l'autre grande catégorie de délit d'entrave, c'est le délit d'entrave qui porte atteinte à un représentant du personnel. Qu'est-ce que cela signifie concrètement?
Alors, l'atteinte à un représentant du personnel, donc là, l'atteinte plus directe, on va trouver énormément les problématiques liées au paiement des heures de délégation. L'absence de paiement, voire un paiement partiel au niveau des heures de délégation. Ne pas oublier que l'employeur peut toujours ne pas être d'accord avec l'usage de certaines heures de délégation, mais il doit les payer avant de les contester auprès du tribunal. Donc, il ne peut pas faire justice soi-même dans le but d'une protection. Du salarié protégé, on va éviter de dire au salarié, grosso modo protégé, bah, vous ne serez pas payé, allez vous débrouiller devant le tribunal. C'est très bien que ça va être très compliqué pour le salarié, donc c'est pour ça qu'on renverse un peu les choses, on oblige l'employeur à payer, puis ensuite à contester. Donc on va essentiellement trouver toutes les problématiques liées au paiement des heures de délégation. On peut trouver lors des réunions, alors c'est peut-être un peu plus rare, mais on a une affaire qui avait condamné un employeur qui avait un peu conspué une représentante du personnel en pleine réunion dans l'unique but de la faire taire. Donc là aussi, on avait eu une condamnation au délit d'entrave. Je pense que dans cette affaire, ça devait être très très tendu pour en arriver jusque-là. On va aussi avoir toutes les problématiques liées au local du CSE, l'absence de local ou un local dont la superficie n'est pas suffisante. C'est une affaire de 2016 où on avait un local de 2 mètres sur 5 pour un CSE de 7 membres, la chambre criminelle a estimé qu'il y avait délit d'entrave parce que le local était trop petit. Soyez pas étonnés si on parle de chambre criminelle dans ce cas-là, c'est que vu qu'on est sur une infraction pénale, c'est pas la chambre sociale qui est compétente. Hein. Donc c'est pour ça qu'on sera toujours sur la chambre criminelle, qui gère toutes les problématiques au niveau de la Cour de cassation en termes de droit pénal, hein, pas forcément les crimes. Donc on va essentiellement se retrouver sur cela. Heure de délégation, problématique de local, plus après quelques faits qui vont viser directement la personne de l'élu, comme ce que je vous ai dit sur cette affaire en réunion du CSE, mais on pourrait en avoir tout un tas d'autres qui les viseraient directement. La liste X aussi est infinie.
Merci beaucoup. Et dernière grosse catégorie de délit d'entrave, le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical. Quels sont les exemples les plus fréquents qui existent dans ce type de délit d'entrave?
Donc, au niveau du délit d'entrave sur l'exercice du droit syndical, on va là aussi retrouver un nombre incalculable d'éléments, mais on va avoir essentiellement l'absence de mise en place des négociations annuelles obligatoires, qui d'ailleurs, si elle vous intéresse, il y aura une webconférence dans très peu de temps sur ce sujet. Donc, l'absence de mise en place des NAO, ça peut entraîner un délit d'entrave. NAO, on en parle dans les syndicats car elles sont obligatoires dès lors que vous avez un délégué syndical. On va également l'avoir en cas d'absence de mise en place d'un local syndical, qui, pour rappel, est obligatoire dès lors que vous avez 200 salariés. On peut le voir au niveau du local, par exemple, un employeur qui va donner un local commun, un CSE, au syndicat. Non, le local du CSE, il est pour le CSE, le local des syndicats, il est pour les syndicats. Il n'y a pas forcément de mélange possible. Là aussi, on va trouver toutes les problématiques liées aux heures de délégation, à leur non-paiement ou leur paiement partiel, qui peut entraîner un délit d'entrave. Et on va avoir également très souvent des problèmes liés à la communication du syndicat, par exemple l'absence de tableau d'affichage, les atteintes à la distribution de tracts. Alors, sachant qu'il est possible de limiter la distribution de tracts à partir du moment où ça ne gêne pas le bon fonctionnement de l'entreprise, mais lorsque ça ne gêne pas, on ne peut pas l'interdire en soi. Les problématiques d'affichage également. On ne peut pas dire à un syndicat, vous ne me mettez pas d'affichage concernant tel sujet sur votre tableau. Le syndicat est libre de mettre ce qu'il souhaite sur son tableau à partir du moment où, évidemment, ça respecte la loi. Quand il n'y a pas d'atteinte à la loi concernant l'affichage. Pense notamment, on ne va pas mettre des affichages insultants ou discriminant une catégorie de salariés, même si ce n'est pas forcément le genre de choses qu'on peut voir, mais juste pour donner un exemple. Donc là aussi, on a tout un tas d'entraves qui peuvent exister et qui peuvent être condamnées à terme. Faut toujours garder à l'esprit que le délit d'entrave, la liste est très longue, les condamnations restent quand même beaucoup plus rares parce que ça va pas toujours non plus au tribunal derrière.
Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, voyons ce qui se passe au niveau de la procédure. Alors, avant d'en arriver au tribunal, y a-t-il possibilité de tenter de résoudre le délit d'entrave à l'amiable?
Exactement. Il y a une possibilité et il est même plus qu'important de chercher à résoudre ce problème à l'amiable parce que passer par des recours judiciaires systématiquement va forcément entraîner un dialogue social assez déplorable derrière. Même si le dialogue social n'est pas forcément bon, il faut toujours chercher à résoudre de façon amiable le litige et c'est généralement en plus assez apprécié par les juges quand il y a une tentative de résolution amiable. Donc, pour résoudre amiablement un litige, il n'y a pas 30 000 solutions. C'est avant toute chose une discussion courtoise avant même l'envoi de quoi que ce soit. Il faut toujours parler avant, par exemple, d'envoyer un recommandé. Le recommandé est officiel et peut toujours braquer un interlocuteur. Donc, une discussion franche et courtoise est toujours beaucoup plus efficace, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il est possible de passer par un recommandé ou quelque chose qui laisse une trace écrite qu'on peut juridiquement fonder par des textes, mais vraiment dans un deuxième temps, hein, je dis régulièrement, attention à l'usage des textes dans un premier temps, ça peut un peu braquer. Donc, autant les utiliser dans un deuxième temps. Donc là, on peut ensuite donc fonder sa demande via recommandé, échange de mail ou autre. Et on peut également, il ne faut pas l'oublier, s'adresser à l'inspection du travail. L'inspection du travail, son rôle premier, ce n'est pas d'abord de sanctionner, c'est de faire appliquer la réglementation du travail de façon la plus efficace possible. Donc à partir du moment où vous êtes face à une infraction qui ne serait pas forcément grave ou n'a pas des circonstances ahurissantes, une bonne foi du chef d'établissement et pas d'antécédent, l'inspection du travail va être plus dans un rôle de conciliation que de sanction. Donc, toujours tenter d'abord cette démarche amiable avant de faire quoi que ce soit. Et pour répondre à Philippe, si l'inspection ne répond pas, c'est vrai que l'inspection du travail ne répond pas toujours. Et on a beaucoup d'inspecteurs du travail, on a des inspecteurs du travail d'un peu de tout type différents. On en a encore à l'ancienne qui vont être vraiment toujours derrière le dos un peu des employeurs, et d'autres qui vont se retrouver un peu sous l'eau. Parce que, ils sont peu nombreux, ils ne sont pas forcément très bien accompagnés, et en plus, on leur demande beaucoup de choses et beaucoup de vérifications derrière. Par exemple, après l'activité partielle sous le Covid, ils ont dû faire des vérifications énormes derrière, donc ils n'ont pas vraiment été disponibles pour beaucoup. Alors, il y a d'autres possibilités qu'on verra tout à l'heure, qu'on verra d'ailleurs tout de suite après et qu'on va évoquer.
Justement, est-on obligé de passer par l'inspection du travail pour faire reconnaître un délit d'entrave?
Ça, c'est très intéressant comme question. L'inspection du travail, c'est théoriquement l'organisme compétent pour faire constater le délit d'entrave. S'il le constate, il constate cela sur un procès-verbal qui fera foi jusqu'à preuve du contraire, et il transmet ça au procureur de la République, ainsi qu'un exemplaire au représentant de l'État dans le département, donc au service de la préfecture. Cet inspecteur du travail qui dispose d'une totale liberté d'appréciation à ce niveau-là peut diligenter une enquête sur lequel l'employeur ne peut se soustraire. Donc c'est théoriquement l'inspection du travail. Après, gardons toujours à l'esprit que un délit d'entrave est une infraction pénale. L'infraction pénale, on peut passer par un dépôt de plainte sur plusieurs options. Il est possible de déposer une plainte directement auprès du procureur de la République, comme n'importe quelle infraction pénale, et par simple courrier. Il est également possible d'aller à la gendarmerie ou au commissariat. Alors ça, c'est extrêmement rare parce qu'en règle générale, quand on le fait, on va vous dire on ne prend pas la plainte pour ça. Alors c'est strictement interdit. Les officiers, les OPJ sont dans l'obligation de prendre toutes les plaintes, peu importe la raison. Mais très souvent, on va essayer de vous pousser un peu vers la sortie parce que c'est vrai qu'eux aussi ont beaucoup de difficultés à faire face aux demandes. Et s'ils peuvent éviter de prendre des plaintes, parfois, ça peut un peu les arranger. Donc, ils vont généralement un peu vous pousser à aller voir ailleurs. Mais théoriquement, ils sont dans l'obligation de la prendre. Il est également possible de faire ce qu'on appelle une citation directe auprès du tribunal. Donc, de citer directement l'employeur auprès du tribunal, mais avec tous les risques, parce que pour ça, il faut vraiment avoir le dossier qui est constitué. Donc, tout un tas de possibilités pour faire cela. L'inspection du travail, c'est celui qui s'en occupe normalement, qui diligente les enquêtes, qui fait tout et qui envoie ensuite au procureur. Ou sinon, on saisit directement le procureur, ou le commissariat, ou la gendarmerie, dans des cas extrêmement rares, s'il veut bien la prendre. Ce sera plutôt le procureur. Le procureur fait toujours avoir conscience quand on saisit le procureur, ça, et tout comme quand on saisit l'inspection du travail, c'est pas gage de succès derrière. Il faut toujours garder à l'esprit que lorsqu'on est en pénal, et ça peu importe l'infraction, quand on est victime d'une infraction pénale, on n'est pas parti au procès. Ça veut dire que quand on dépose une plainte, on ne fait pas d'enquête, on ne participe pas à cette enquête, et on n'est pas une partie du procès. Le procès sera la personne accusée contre la société qui est représentée la plupart du temps par le procureur. La victime, elle, ne peut être que partie civile si elle se constitue partie civile, donc ouvrir une partie civile pour demander des dommages-intérêts. Donc, lorsqu'on fait une plainte auprès du procureur, auprès de l'inspection du travail, auprès de n'importe qui, on n'est jamais certain que ça aille jusqu'au bout. Et vu qu'on n'a pas les choses en main, ça dépend toujours, je ne vais pas dire de la bonne volonté, mais en tout état de cause, de suite donnée par les services judiciaires.
Très bien, merci, merci beaucoup. Et alors, en cas d'action en justice pour faire reconnaître donc un délit d'entrave, le CSE est-il obligé de désigner un mandataire et qui peut être ce mandataire?
Exactement. Alors là, ce que je vais vous répondre, ce sera uniquement en cas de constitution de partie civile. Parce que comme je vous l'ai dit, sur la partie pénale, les seules parties sont la personne accusée et la société. Donc le CSE, dans ce cas-là, n'est pas parti au pénal. Pour être parti, il faut se constituer partie civile, donc ouvrir une partie civile, une partie dommage-intérêt dans ce procès pénal. Donc en cas de constitution de partie civile, effectivement, le CSE doit mandater un de ses membres pour pouvoir être représenté et pour pouvoir agir en justice au nom du CSE. Il faut en fait qu'une personne soit mandatée pour agir au nom du CSE. Ce mandat, il y a le choix, soit c'est une décision du CSE qui va donner mandat à un de ses membres, soit c'est une clause de son règlement intérieur qui va donner mandat à un de ses membres. Lorsqu'on va être sur une délibération pour donner le mandat à un des membres du CSE, il faut que ce soit voté à la majorité des suffrages exprimés et consigné dans un procès-verbal qui sera nécessaire pour démontrer ce mandat. Ce mandat, très important, il peut être permanent ou spécial. Permanent, ça veut dire que ce mandat va courir ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'on l'arrête. Ou spécial, parce que ça va être uniquement pour une affaire déterminée. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle affaire, il faudra refaire un mandat. Dans tous les cas, il faudra absolument avoir des mentions dans ce mandat, notamment la qualité de demandeur ou de défendeur, le nom du mandataire, la date de l'approbation du mandat, la juridiction devant laquelle se déroulera l'instance. On va être sur un tribunal pénal, hein, pour ça. Les parties à l'instance et les motifs de l'action. Dans ces motifs de l'action, c'est là où il faut être le moins restrictif possible lorsqu'on veut faire un mandat sur du long terme, parce que sinon, si vous avez un motif d'action qui est très restreint, ce sera uniquement un mandat pour une affaire et pas forcément pour plusieurs. Ce mandat aussi peut prévoir l'assistance du mandataire par un avocat, ce qui est aussi souvent le cas. Donc le CSE pouvant utiliser son budget de fonctionnement pour recourir à un avocat, il peut se faire assister par un avocat et dans ce cas-là, on le met dans le mandat.
Très bien, merci beaucoup. Et quelles sont donc les sanctions encourues en cas de délit d'entrave? Et le CSE peut-il demander des dommages et intérêts dans le cadre de cette procédure?
Alors, au niveau des sanctions encourues, ça va dépendre du délit d'entrave. Vous avez plusieurs types de délits d'entrave qui vont entraîner des peines différentes. Pour le moment, je vais vous donner les peines uniquement pour les personnes physiques, donc des personnes existantes, vivantes, et non pas des personnes morales comme l'entreprise. Donc, pour les personnes physiques, lorsque vous allez avoir une entrave à la constitution du CSE ou à la libre désignation de ses membres, c'est 1 an de prison, 7 500 euros d'amende. Une atteinte au fonctionnement régulier des institutions, c'est 7 500 euros d'amende. Une entrave à l'exercice du droit syndical, c'est 1 an de prison, 3 750 euros d'amende. Et ça va être essentiellement les trois cas, on va le retrouver le plus souvent. Mais on peut aussi avoir, par exemple, s'il y a des conseillers salariés parmi nous, vous pouvez avoir une atteinte à l'exercice régulier de cette fonction de conseiller salarié qui est d'un an de prison et 3 750 euros d'amende. En cas de récidive, ces peines sont doublées et la récidive, elle sera présente si dans les 5 ans suivant l'exécution de la peine, d'une première condamnation, on a de nouveau un délit d'entrave. Donc, quand un délit d'entrave est condamné, pendant 5 ans, il y aura toujours une épée de Damoclès au-dessus de la personne condamnée. Si ça se reproduit, les peines seront doublées. Il n'y a pas de peine complémentaire prévue par la loi. La loi pour les infractions pénales va souvent prévoir des peines complémentaires. Par exemple, dans certaines infractions économiques, on peut avoir en peine complémentaire l'interdiction de gérer une entreprise. Là, pour ce genre d'infraction, elle n'en prévoit pas. Et lorsque ça n'est pas une personne physique qui est condamnée, mais une personne morale, évidemment, il n'y a pas de prison, on ne peut pas mettre une entreprise en prison. Donc dans ce cas-là, et ce, peu importe l'infraction, c'est toujours la même règle, on prend la peine d'amende qu'on multiplie par 5. Donc c'est toujours peine d'amende multipliée par 5 si vous êtes sur une personne morale. Et évidemment, en cas de récidive, vu qu'on double, mais là, dans ce cas-là, ça reviendra à multiplier par 10. Concernant le délai de prescription qui est très important parce qu'il a été revu en 2017, le délai de prescription qui avant était de 3 ans est passé à 6 ans. Donc le point de le délai de prescription est beaucoup plus important, ce qui laisse un peu de temps pour pouvoir condamner. Attention, au niveau des infractions pénales, c'est pas parce que la prescription est longue qu'il faut prendre trop son temps parce qu'il y a un risque de disparition des preuves. Donc il ne faut pas non plus forcément trop perdre de temps dans ce genre de cas. Quant au point de départ du délai de prescription, c'est en fonction du type d'infraction. Si on est sur une infraction instantanée, ça va être le jour où l'entrave a été commise. Et lorsqu'on est sur une infraction qui est continue, ce sera le dernier jour de cette infraction. Donc, si l'infraction se déroule sur du long terme, on attendra le dernier jour pour faire partir le point de départ de ce délai de prescription. Et concernant est-ce que le CSE peut demander des dommages-intérêts? Oui. Le CSE peut se constituer partie civile. Quand on se constitue partie civile, on vous demande combien de dommages-intérêts vous voulez. Alors là, il peut y avoir plusieurs raisons, hein, pour se constituer partie civile. Parfois, c'est vraiment pour faire sanctionner, donc alourdir un peu la note en demandant des dommages-intérêts. Parfois, c'est juste uniquement pour avoir l'accès au dossier. Et dans ces cas-là, on demande souvent un euro symbolique en dommages-intérêts. Mais il est possible de demander plus. Ça, il vaut mieux faire évaluer ça par un avocat parce qu'il n'y a pas de dommages-intérêts-sanctions en France. Donc, il faut démontrer le préjudice causé au CSE ou au délégué syndical pour demander telle somme d'argent. Il n'y a pas, même si c'est vrai qu'en pratique, parfois, on y va un petit peu à la louche, je dirais, mais normalement, il faut vraiment démontrer ben, ce préjudice m'a causé exactement telle somme. Telle somme correspondant à ce préjudice. D'où le fait que parfois on a des préjudices un petit peu étranges avec des virgules, avec des centimes, mais c'est pour ça. Donc il ne faut pas hésiter à consulter un avocat pour ça, parce que d'autant plus qu'en fonction de certains tribunaux, il y a certains tribunaux qui sont plus ou moins généreux avec les dommages-intérêts. D'où le fait que ça peut être intéressant parfois de consulter un avocat pour l'estimation de ce préjudice.
Très bien, merci beaucoup Kevin. Donc nous arrivons au terme de cette webconférence. Donc nous allons répondre à quelques questions. Et si d'autres questions vous viennent à l'issue de cette webconférence, vous avez également la possibilité de tester gratuitement notre abonnement en posant votre question à nos juristes de La Rochelle qui vous répondront en moins de 24 heures. Alors, Kevin, est-ce que on peut répondre à quelques questions qui nous ont été posées?
Bien sûr, bien sûr.
Alors, mon directeur est président de CSE, mais notre employeur est le président de l'association. Il n'y a pas eu de mandat écrit et signé de délégation de pouvoir. Mon directeur a-t-il le droit de présider le CSE dans ce cas?
Alors, la délégation de pouvoir, le mandat doit être écrit. Alors, ça peut parfois être écrit dans le contrat de travail, il vaut mieux avoir une délégation bien à part pour pouvoir démontrer. Parce qu'en fait, cette délégation de pouvoir est très importante. Votre directeur qui préside le CSE doit avoir la capacité de prendre réellement des décisions et ne doit pas être une marionnette de l'employeur officiel. Donc, il faut nécessairement avoir une véritable délégation de pouvoir qui lui donne réellement le pouvoir de présider ce CSE. Donc, il faut absolument que cette délégation soit présente et qu'elle puisse être présentée sur demande aux élus.
Très bien, merci beaucoup Kevin. Et donc Stéphanie, vous avez eu réponse à votre question. Nous passons à la question de Richard maintenant. Ma directrice a-t-elle le droit de ne pas faire de réunion CSE ou négociation annuelle obligatoire alors qu'il y a un syndicat en place depuis plus de 2 ans? Je suis le secrétaire.
Alors, au niveau des réunions, vous devez en avoir entre 6 et 12 par an, sinon vous avez un délit d'entrave. Au niveau des NAO, dès lors que si vous avez un délégué syndical, vous êtes à plus de 50 salariés, l'organisation de NAO est obligatoire.
Alors,
Donc là, vous avez un risque de délit d'entrave qui est constitué dans votre cas.
tout à fait. Alors, juste une petite précision par rapport à la formulation de la question de Richard. Une section syndicale en entreprise ne signifie pas forcément qu'il y a un délégué syndical. Et c'est bien le délégué syndical qui doit négocier. C'est bien ça, hein, Kevin?
Oui, toujours garder, de toute façon, c'est le délégué syndical qui négocie la priorité, de toute façon, de tous les accords. Dès lors que vous avez un délégué syndical en place dans l'entreprise, c'est lui, c'est vers lui qu'on se tourne pour faire ce genre de choses. Sinon, là aussi, c'est un délégué d'entrave. Hein. Essayer de signer un accord avec un CSE alors que vous avez un DS, c'est un délégué d'entrave.
Tout à fait. Alors, une question de Laurence maintenant. Dans notre entreprise, de nombreux middle, pôles d'expertise, sont créés, entraînant une nouvelle organisation du travail, de nouvelles fiches métiers. La direction refuse une information consultation sur ce sujet. Est-ce un délit d'entrave?
Alors là, vous êtes en fait basé sur un texte qui est assez flou en pratique, où grosso modo, lorsque vous avez des changements importants dans l'organisation du travail et autres, vous devez avoir une consultation du CSE. Dans ce type de cas de figure, il y a quand même pas mal de changements dans ce que vous nous expliquez. Pas mal de choses qui pourraient être à être modifiées. Donc, honnêtement, dans ce genre de cas, il vaut mieux consulter le CSE. Vous avez un risque de délit d'entrave. Alors là, dans ce cas-là, on est sur l'interprétation d'un texte. Donc, on ne peut pas dire vous êtes sur un délit d'entrave sûr et certain, contrairement à quand on n'organise pas les NAO. Là, vous avez malgré tout une part d'interprétation. Mais il semblerait quand même que vous soyez sur une modification assez importante d'un certain nombre de conditions de travail qui nécessiteraient une consultation du CSE dans votre cas.
Très bien, merci beaucoup. Donc une dernière question de Cécilia. Au cas où le secrétaire est absent à une réunion de CSE, le secrétaire adjoint également, un des membres du CSE peut-il rédiger le procès-verbal ou est-ce que le secrétaire doit l'écrire à partir des notes de l'un des membres?
Alors là, dans ce genre de cas de figure, vous aurez forcément un secrétaire. Vous devez forcément avoir un secrétaire au niveau de la réunion. Donc, si le secrétaire ou secrétaire adjoint n'est pas présent, il faut, au tout début de la réunion, nommer un secrétaire de séance qui aura la charge de rédiger ce procès-verbal. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories dans ce qu'on dit, il y a souvent aussi beaucoup de pratiques. Hein. Dans ce cas-là, si il y a un enregistrement qui est donné au secrétaire ou autre qui le rédige, pas non plus catastrophique. Mais théoriquement, dans votre cas, vous devez avoir un secrétaire de séance qui est nommé au tout début de la réunion. Il ne faut surtout pas oublier cela parce que ça peut poser problème. Donc, pas de secrétaire disponible, on en est bien au tout début de la séance.
Merci beaucoup, Kevin, pour ton éclairage sur ce sujet assez riche. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez également consulter notre dossier dédié au délit d'entrave au CSE. Nous mettons également à disposition un modèle de lettre pour demander à l'inspecteur du travail de constater un délit d'entrave, en espérant qu'il vous réponde. Je ne sais plus qui parlait de ce souci. Effectivement, les inspecteurs du travail sont assez débordés. Donc, je vous rappelle nos accompagnements juridiques pour les CSE. N'hésitez pas à découvrir nos abonnements qui vous donnent accès donc à notre plateau de juristes à La Rochelle et qui vous permettent d'accéder à toute notre base documentaire, ainsi que d'accéder à votre convention collective qui est un outil très précieux pour nous, élus et délégués syndicaux. Alors, je vous annonce également les deux prochaines webconférences qu'organise Jury Travail. Donc, la prochaine réunion a lieu le 19 octobre. Il traitera de la rupture conventionnelle. Il y a eu quelques nouveautés en 2023 concernant la procédure. Et enfin, je vous donne rendez-vous, et là, ça sera à nouveau vraiment une webconférence dédiée aux élus et aux délégués syndicaux, où il sera question des négociations annuelles obligatoires. On va rentrer dans la période de négociation assez fréquemment utilisée dans les entreprises. Et donc, je vous donne rendez-vous le 14 novembre à 14h sur ce sujet. Voilà, merci beaucoup de l'intérêt que vous avez eu pour cette webconférence. Vous avez été nombreux à poser des questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour animer ces webconférences. Merci beaucoup, Kevin, encore.
Merci à toi.
Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Merci à tous.